Il y aura deux temps. La première, ça va être surtout, ça va être des témoignages. Ouais, prends le micro, ouais, comme ça j'ai moins besoin de forcer, vous m'entendez tous. Donc la rencontre va se faire en deux temps. Premier temps, ça va être des témoignages. Donc il y a Bernard Rigny qui va parler en premier. Donc sa femme Nathalie est morte d'un cancer du sein. Il va nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'elle a été accompagnée dans cette fin de vie. Après, Bruno va lui aussi nous parler de la fin de vie de sa femme, Françoise, qui avait la maladie de Charcot. Et puis, Jean-Benoît Vigny encore, c'est à la famille, mais lui, il interviendra plus en tant que journaliste pour nous expliquer un petit peu les répercussions de ces débats de fin de vie actuellement, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est assez médiatisé actuellement, donc qu'on soit bien d'accord, on ne va pas écrire la loi, nous, hein, actuellement. Il y a déjà des textes qui existent, il y a la loi Onetti, donc je vous ai mis à tous un tract, enfin une plaquette. C'est un travail que je trouve remarquable, qui a été fait par une de mes anciennes internes, parce que moi je ne me suis pas présentée, mais je suis médecin généraliste à la retraite depuis peu. Et j'avais des internes de médecine générale et il y avait Élise Pitance qui, avec une collègue, a fait sa thèse sur la fin de vie. La fin de vie, en parler ensemble pour qu'elle nous ressemble. Parce que la fin de vie, c'est pas un sujet tabou. Il faut pas que ça soit un sujet tabou. De toute façon, la mort, ça fait partie de la vie. Il y a une association de soins palliatifs dont j'aime beaucoup le titre, il s'appelle « Jalmav, jusqu'à la mort, accompagner la vie ». Et c'est un petit peu le but de cette soirée, c'est de réfléchir ensemble à comment on veut parler de la mort et comment est-ce qu'on prépare sa mort. Parce que donc vous pourrez lire ce tract qui est, je trouve, remarquable, qui dit déjà ce que la loi vous offre. Donc, on peut refuser un traitement. Tu peux le projeter pratiquement. Bon, de toute façon, je les ai mis, j'en ai mis sur les chaises pour que vous les ayez, que vous les rameniez chez vous, parce que c'est intéressant de réfléchir à l'avance. Choisir une personne de confiance. Ça, quand on rentre à l'hôpital, on vous dit toujours, vous avez choisi votre personne de confiance. Mais ça, il faut y penser à l'avance. Savoir si on peut plus soi-même prendre une décision, à qui on confie la prise de cette décision. Donc souvent les gens choisissent leur conjoint ou un frère ou un enfant, mais c'est important de le dire et de l'écrire. Pareil, faire des directives anticipées, c'est quelque chose qui est important, parce que souvent, je sais pas, imaginez que vous rentriez à l'hôpital pour vous faire un problème de chirurgie de genou, on vous anesthésie et vous ne vous réveillez pas. Bah, quelle décision on prend dans ce cas-là? Souvent les gens, quand ils font des directives anticipées, ils disent « je ne veux pas d'acharnement thérapeutique ». D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire « pas d'acharnement thérapeutique » ben, ça, c'est important d'y réfléchir à l'avance. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut être intubé, respiration artificielle? Est-ce qu'on veut qu'on continue à nous nourrir ou juste nous hydrater? Jusqu'à quand on pourra communiquer avec ses proches? Tout ça, c'est des choses qu'on peut réfléchir à l'avance et qu'on peut écrire. Et ça, la loi Leonetti, elle a mis ça en avant. Et donc après, on pourra parler aussi, mais plus, je pense, dans le débat, qu'est-ce que c'est qu'une sédation profonde. Et puis, ce qui est important, elle a mis tout de suite en haut, ce que la loi vous offre, c'est de refuser un traitement. Donc ça, c'est important aussi. On peut être maître de ce qu'on veut, et ce n'est pas les médecins seuls qui vont prendre des décisions pour soi. Il y a toute des réflexions collectives dans tous ces problèmes d'éthique, de fin de vie, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Donc vous pourrez lire « J'aimerais pouvoir, pour ma fin de vie, j'aimerais, enfin, gardez ces tracts, emmenez-les chez vous, réfléchissez avec. Voilà. Et puis donc, on va parler nous tous là. Et après, bah, à vous la parole, on a un micro qu'on fera passer dans la salle. Et n'hésitez pas à poser des questions. Alors pendant la première partie, par contre, je vous demanderai de ne pas interrompre les intervenants. Ils parleront chacun à leur tour. Bernard, tu passes la parole ?
Le micro.
Le micro, parce que c'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, comme vous l'indiquez à l'instant, Isabelle, ma femme, qui se prénommait Nathalie, est décédée d'un cancer du sein qui avait été diagnostiqué en mars de l'année 2004. Elle avait 51 ans. Évidemment, c'est un coup de tonnerre dans un couple, dans une famille. Nos enfants étaient déjà largement en âge de comprendre ce qui se passait. Alors, elle a suivi tous les soins qui sont en général dispensés pour cette situation. Chimio avant opération, opération, chimio après, radiothérapie. Et puis, son état s'est bien rétabli et elle a pu reprendre son travail à mi-temps d'abord, puis ensuite à temps complet. Et la vie a repris dans de bonnes conditions. Pendant 9 ans, mais en sachant que le cancer pourrait toujours se manifester à nouveau, ce qui s'est produit en mars de l'année 2013. Et autant on avait pu être confiant, relativement confiant pendant les 9 années précédentes, autant là on sentait que les choses étaient beaucoup plus difficiles. Elle a suivi de nombreuses cures de chimiothérapie et lorsqu'on a vu que des métastases, en termes médicaux, arrivaient sur le foie, on a senti que la situation était extrêmement difficile. Donc on a eu 2 années de vie à peu près normale, à peu près correcte, et puis les choses après se sont dégradée très rapidement, et c'est là que Nathalie a été admise en soins palliatifs, et c'est un peu de ça dont Isabelle voulait que je vous parle. Alors c'était un temps très court, parce qu'elle est rentrée de septembre, et elle est décédée le 12 septembre, donc ça a duré 10 jours, mais je voulais témoigner pour rendre un hommage, au personnel qui l'a prise en charge, médecin, aide-soignante, infirmier. Et j'ai en mémoire cette petite réunion qui s'est tenue au chevet de Nathalie avec le médecin, infirmière, aide-soignante, qui, avec simplicité, expliquait comment les choses se passaient dans un service où l'on essayait avant tout d'éloigner la souffrance le plus possible. Et je me souviens d'une question que Nathalie avait posée un peu avec naïveté, parce qu'elle n'arrivait plus à marcher. Elle dit, docteur, quand est-ce que je vais pouvoir remarcher à nouveau? Alors là, il a pris un petit air dubitatif, il dit, mais non, je ne peux pas vous dire, ça n'est pas possible. On savait qu'on était proche de la fin, mais lorsqu'on est proche de la fin, je pense qu'on retient tous les moments, toutes les minutes, toutes les heures, toutes les journées qui nous permettent d'être encore ensemble et de communiquer, puisque jusqu'au matin de sa mort, on a pu toujours parler, dialoguer, parce qu'elle souffrait certes, mais pas à l'excès. D'une manière qui la rendait complètement, comme on dit, ensuquée. Voilà. Alors, on parlait des directives anticipées, c'est vrai que personne ne nous en a parlé. Pour nous, les choses paraissaient assez claires dans notre esprit. la personne de confiance, c'est quand même moi qui ai eu cette cavité. Et véritablement, dans ce service, on se sentait en confiance et en sécurité. Parce que précédemment, elle avait passé quelques jours à la maison, elle était vraiment crevée, allongée en permanence. Et on est très démunis. Que faire lorsqu'il y a un petit incident? Que faire si elle a envie de manger quelque chose? Est-ce qu'on peut prendre un cachet ou... Bon, voilà. Et là, quand on est rentré, je me souviens très bien, un mercredi, on s'est dit, allez, c'est bien, tu es bien ici. Et moi, je me sens aussi beaucoup mieux et beaucoup plus en sécurité. Lorsque son décès est intervenu, j'ai tenu à remercier ce service humainement des uns et des autres, et puis à remercier son oncologue qui était Madame Mireille Bousseau, qui a longtemps exercé au tribunal, à l'hôpital, et qui exerce encore, je crois, après sa retraite. Pour véritablement leur dire merci de votre compétence, évidemment, votre compétence est indiscutable, mais aussi merci pour l'humanité dont vous avez fait preuve. Alors, c'est peut-être pas vrai partout, mais je veux dire qu'ici, c'était la réalité. Qu'elles se sont, je dis elles parce que c'était plutôt des femmes, toujours comportées avec le plus d'égard possible. Et. Sans nous mener en faire croire des choses impossibles, bien évidemment, mais tout cela rester serein, et je les ai remerciés du cœur et au nom de nos enfants. Ce service, je crois, nous a permis d'envisager sereinement la mort. Mais c'est une réflexion individuelle. Je veux dire, on n'a pas eu d'aide particulière. Je pense qu'on se suffisait nous à nous-mêmes, et ceux qui nous entouraient, nos enfants, notre famille, nos amis, nous ont aidés aussi en ce sens. Voilà ce que je voulais dire. C'est tout simple, mais c'est un petit témoignage. Et je peux dire que je garde de ces 10 jours un souvenir un peu lumineux, parce que la mort approchait, mais pas la fin de notre vie. Et voilà ce que je peux lui dire.
Merci, Bertha. On passe la parole à Bruno.
Bien, comme mon frère, j'ai perdu ma femme, mais elle était sensiblement plus âgée puisqu'elle avait 79 ans. Donc ma femme a été atteinte par la maladie de Charcot, une maladie dont on sait que le pronostic est fatal, mais le diagnostic n'a été établi que tardivement. Alors, elle a commencé à éprouver des troubles au printemps 2021, des troubles qui n'étaient pas très inquiétants. Elle a consulté sa rhumato qui a prescrit de la kiné. Et pendant l'été, c'est une difficulté à marcher qui apparaît. Alors, elle reconsulte la rhumato qui fait faire un examen, un électromyogramme, et conclut que c'est une arthrose cervicale qui bloque un nerf. Bon, rien d'inquiétant. Mais pourtant, ma femme n'est pas convaincue, d'autant qu'un de ses doigts ne se relève plus. Alors, en novembre, elle fait une première chute, et puis une autre en décembre. Et c'est en ce mois de décembre qu'elle consulte au CHU un orthopédiste de la main, qui lui dit que ses troubles ne relèvent pas de lui, mais d'un neurochirurgien. C'est ainsi qu'au début de 2022, elle sera examinée par un neurochirurgien qui qui déclarera que Sarumato a fait une erreur patente de diagnostic et qu'il s'agit d'une SLA, c'est-à-dire maladie de Charcot. Alors nous sommes à ce moment-là parfaitement au clair. Nous avons connu des personnes atteintes de cette maladie. Nous savons bien qu'il n'y a pas de traitement et que l'issue ne peut être que fatale. Les médecins n'ont pas besoin de nous le dire. Mais ils se gardent d'évoquer l'espérance de vie puisque celle-ci est très variable d'un malade à l'autre. Alors nous nous remettons à une hypothèse favorable, 2 ou 3 ans, ce qui éloigne provisoirement de nos préoccupations l'attitude à avoir face à la fin de vie. Alors cette réaction relève un peu du déni sans doute de notre part, mais un déni auquel je participe activement, si je peux dire, car je suis moi-même atteint d'un cancer et je suis soigné par chimiothérapie. Comme cela dure depuis 4 ans, en 2022, ça dure depuis 4 ans, j'ai fini par me convaincre que je peux encore tenir quelques années, donc tous les deux, on se donne une certaine marge. Et au fil des premiers mois de 2022, l'état de ma femme se détériore. Alors elle commence à avoir besoin d'un déambulateur, puis après de soignants qui interviennent, l'orthophoniste, l'ergothérapeute. À quelques reprises, elle fait un court séjour en neurologie au CHU. Or, c'est plus pour des observations que pour des soins, puisque de toute façon, on ne peut rien faire. Alors, je vais vous lire quelques lignes de ce qu'elle a écrit en avril à l'occasion d'un de ses séjours. C'est avec une certaine appréhension, que j'aborde ce séjour à l'hôpital qui devrait m'éclairer sur le chemin qui me reste à parcourir. Mes jours sont sans doute comptés, mais je ne ressens pas de vertige. Il me semble que je descends tout doucement une pente à laquelle nul n'échappe. Je vais essayer d'être vraiment à tous ceux que j'ai la joie de rencontrer. Donc ces lignes, je ne les ai pas lues hein, sur le moment, je les ai retrouvées dans l'ordinateur. Elle a écrit d'autres choses encore. Parce que taper sur l'ordinateur est resté possible un certain temps. Alors, avec l'été, nous espérons pouvoir séjourner dans notre maison de campagne. Moi, je ne peux pas être seul avec ma femme, étant donné ses difficultés motrices, et je suis moi-même assez fatigué par les chimies. Alors, plusieurs personnes, des membres de la famille, des amis, sont venus m'épauler. Pendant ce séjour, la maladie est comme mise à distance et elle fait croire que l'échéance reste lointaine. Mais ce n'était qu'une illusion et très vite arrivent de nouvelles pertes de capacité, dont une qui est terrible, enfin toutes sont terribles, mais celle qui empêche de parler. Donc cette incapacité est très douloureuse pour Françoise et je me trouve évidemment empêché d'avoir un dialogue avec elle sur les choses essentielles, alors que maintenant on ne peut plus éluder la proximité de la fin. Alors, au mois d'octobre, la dégradation s'accélère, et il faut un fauteuil roulant, de l'oxygène pour respirer, un lit médicalisé, jusqu'au jour où je dois appeler les urgences qui emmènent Françoise au CHU. Elle est hospitalisée depuis quelques jours quand mon fils, là-bas c'est bien mon fils, mais il y en a un autre, c'est de lui dont je parle là, quand mon fils qui est allé la voir m'appelle pour me dire qu'elle va très mal. Donc je me rends au CHU, Françoise souffre, elle ne veut plus être soignée. Et entre-temps, j'ai fait venir aussi l'autre garçon. Et elle écrit sur une ardoise, je veux mourir. Alors, c'est un dimanche. Personne ne peut prendre la décision de la transférer en soins palliatifs. Parce qu'il faut une réunion d'un certain nombre de professionnels pour prendre cette décision. Mais on nous dit qu'on nous rappellera tard. Jamais personne n'a rappelé. Alors, du CHU, elle va aller passer une petite période à Bazir, que vous connaissez sans doute bien, c'est pas loin d'ici, avant d'être ramenée au CHU, pas de nouvelles, donc des soins palliatifs. Et elle revient à la maison fin novembre et elle décède à la maison 15 jours après, sans qu'il y ait eu de transfert en soins palliatifs. Alors sur cette expérience, je suis amené à faire quelques réflexions. Bon, la première, c'est que je regrette que l'on n'ait pas pu avoir un dialogue sur ce que nous envisageons pour la fin de vie, parce que tant que cela aurait été possible, nous ne l'avons pas fait, sans doute un peu par embarras, et parce que nous pensions naïvement que nous avions encore du temps devant nous. Et deuxièmement, je suis assailli par des questions par rapport au débat actuel sur la problématique de la fin de la vie. Alors, je ne suis pas sûr d'être capable d'avoir une réponse bien arrêtée, un avis bien arrêté. J'aimerais que la réponse par les soins palliatifs soit une réponse satisfaisante pour tous les cas, mais en même temps, je comprends la demande de ceux qui souffrent d'une maladie incurable, comme l'est justement la maladie de Charcot, et qui, tant que leur état n'est pas extrêmement dégradé, ne relèvent pas des soins palliatifs. Alors, aide à mourir, suicide assisté, c'est une question. Hein, et voilà donc ce qui est aujourd'hui ma position non définitive, et qui ne sera peut-être jamais, mais il faudra bien que je me pose aussi la question pour moi-même, parce que je suis d'un âge de plus en plus avancé.
Alors, quand Bruno m'a parlé de la fin de vie de Françoise, je lui ai dit, mais et vous aviez fait des directives anticipées ? Elle me dit, je ne sais plus. Puis Jean-Benoît me dit, mais si, moi j'en ai fait. Je suis allée rencontrer son médecin traitant. Donc, je te passe la parole.
Bonsoir. Je ne vais pas trop intervenir en tant que fils. J'ai écrit un article sur la fin de vie de ma mère, mais que je ne présenterai pas là. Pour tout un tas de raisons. Je vais plutôt vous présenter ce qui s'est passé hier. François Hollande était à Grenoble, il était reçu par le Dauphiné Libéré, et il y a une habitante de Coubleville, on n'est pas de Coubleville, qui est interpellée en vidéo, et donc je vous propose de l'écouter, parce que c'est intéressant, il y a sa question et la réponse de François Hollande. En assurant que ça marche.
François Hollande, je voudrais vous poser une question sur la fin de vie. Je suis tétraplégique depuis 20 ans. J'ai 83 ans maintenant. Ma situation s'est beaucoup dégradée. À l'heure actuelle, je suis arrivé au bout de mes forces. Je n'ai plus la capacité de faire ce que j'ai dans la tête. Je veux quitter cette vie. C'est une décision mûrement réfléchie. Malheureusement, mon cas ne rentre pas dans la loi actuelle. J'ai écrit une lettre ouverte au Premier ministre. La loi doit être à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Que comptez-vous faire pour que la loi sur la fin de vie soit enfin prise en compte en France, afin que la mort, qui fait partie de la vie, ne soit plus tabou et que nous puissions mourir dans la dignité sans être obligés d'aller à l'étranger.
Une femme donc, qui est tétraplégique, mais et qui s'exprime très clairement, très lucidement et sur sa situation.
Elle a eu un accident il y a 20 ans, elle a beaucoup été aidée par son compagnon qui a fini par mourir, parce que c'est le cas de nombreux aidants qui pas récemment.
Donc qu'est-ce qu'elle nous réclame, cette dame? Elle nous dit, la loi qui a été votée, c'était encore sous ma présidence, ne répond pas à sa propre situation. La loi que nous avions fait voter permettait à des personnes qui étaient à l'hôpital, plus souvent, et qui étaient dans des souffrances atroces, d'être soulagées et d'avoir une sédation profonde, à condition d'avoir donné des directives permettant de les faire mourir dans la dignité. Ça ne répond pas. Elle n'est pas dans une situation où elle n'est pas hospitalisée, dans un établissement, mais elle n'est pas elle souffre, mais elle n'est pas dans une situation où sa souffrance serait telle qu'il faudrait avoir une sédation profonde. Donc c'est ce qu'on appelle la loi sur la fin de vie ou le suicide assisté. C'est ça. Et donc ça fait trop longtemps que ce texte a été repoussé. Là, il va venir très prochainement à l'Assemblée, en étant d'abord sur les soins palliatifs, ce qui est déjà engagé, et sur l'arrêt de la vie.
Et s'il n'y avait pas eu la dissolution, il n'aurait pas été scindé en deux.
Non, il n'aurait pas été scindé en deux, ce qui aurait été quand même mieux. Ça aurait été voté en une fois, parce que ce qu'elle peut craindre, c'est que ce texte, qui vont être votés d'abord par l'Assemblée, puis après le Sénat, puis après des navettes parlementaires, puis après les élections municipales, puis après il y a des élections présidentielles qui arrivent, on va attendre. Non, elle peut plus. Cette dame, elle ne peut plus attendre. Et elle nous dit, finalement, si vous ne votez pas, je serai obligé d'aller à l'étranger.
Mais elle n'a pas envie.
Elle n'a pas envie. Ouais, donc, voilà, on a deux voix. Je pense que ça fait trop longtemps que le débat a lieu. Il n'est plus en cause. Il y a eu plein de concertations, des travaux, il y a eu une convention citoyenne là-dessus. Il faut maintenant voter. Et permettre à ces personnes d'avoir, à certaines conditions, bien sûr que ce n'est pas une personne qui dit enlevez-moi la vie parce que j'en ai assez. C'était la crainte que certains. Non, il y a toute une procédure qui est maintenant prévue avec l'intervention médicale. Donc je crois que c'est maintenant une demande que la société a, je crois, partagée.
Voilà, ça vous donnera des réflexions et peut-être un débat. Je voulais juste intervenir très rapidement avant que je crois que ce soit, la parole vous soit donnée pour dire la difficulté des médias qui participent à ce débat-là. Ça, c'est un article qui a été fait sur cette même dame. La difficulté qu'on a en tant que média, c'est. Alors, déjà, c'est pas simple de trouver des gens qui veulent parler de la mort. Et en règle générale, c'est souvent des cas saillants. Que ce soit pour cette dame-là, ou que ce soit pour cet article-là, ça c'est moi qui l'ai écrit, sur donc, des militants du suicide assisté qui aident des gens à mourir à Grenoble, notamment à Grenoble, et qui, il y a quelques mois, ont raté la personne, et ont été mis en examen pour volonté de donner la mort. Je ne sais pas comment le dire, mais qui est plus en tête. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, en tant que média, nous, on participe évidemment au débat public, et dès que la loi est votée, ou en tout cas dès que le processus parlementaire est en route, ben, ça s'inscrit à l'agenda politique, ça s'inscrit donc en règle générale à l'agenda médiatique aussi. Mais on a du mal à rencontrer des gens qui ne soient pas polarisés. On a soit des gens qui sont contre, farouchement contre, et pour le développement des soins palliatifs par exemple, soit des gens qui sont pour le suicide assisté, ou l'euthanasie, et qu'ils promeuvent en France de façon revendicative. On a du mal à avoir le juste milieu. C'est une des difficultés de ce sujet-là particulièrement, et qui se retrouve, je pense, dans l'hémicycle, et qu'on va retrouver ces prochains mois quand la loi va être un peu plus débattue. Parce qu'en fait, c'est vraiment un débat polarisant, c'est la minorité qui n'est pas silencieuse qui s'exprime, mais une majorité qui est silencieuse, qu'on n'entend pas. Et c'est notre difficulté en tant que média d'arriver à toucher ces gens-là, qui sont en général un peu plus posés que pourquoi on prend pas une position arrêtée, comme vous avez entendu tout à l'heure mon père et mon oncle. Merci.
Alors, je me rends compte que j'ai fait un oubli important tout à l'heure. Quand j'ai présenté les intervenants, j'ai pas présenté Antoine Villard. Et pourtant, c'est un copain, un médecin généraliste de la DUIS, qui est aussi président de la CPTS, donc il va vous expliquer rapidement ce que c'est. Et puis, qu'est-ce qui existe sur la région bordelaise? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Merci, bonsoir. Donc moi, je n'ai pas de témoignage personnel à donner. Je suis donc médecin généraliste depuis une bonne trentaine d'années. Et j'ai été coordinateur de l'hospitalisation à domicile. Donc à ce titre-là, j'ai été amené à accompagner pas mal de gens en fin de vie, à domicile en l'occurrence, ou alors qui sont repartis à l'hôpital pour leur dernier jeu. C'est donc voilà, c'est à ce titre-là qu'Isabelle me présente comme donc je suis président de la CPTS. Je suis co-président de la CPTS. C'est la communauté professionnelle territoriale de santé. Donc c'est une association qui rassemble les différents professionnels de santé du territoire autour de tout un tas de problématiques, dont l'accès aux soins, les parcours de soins, etc. Et évidemment, les professionnels de santé, ils sont interrogés dans leur quotidien par cette problématique de la fin de vie. Et ils sont, comme tous les autres, hein, soit ils ont des idées très arrêtées, comme on dit, mais j'en ai pas connu beaucoup qui aient des idées très arrêtées, puisqu'en fait, le quotidien, la diversité des situations, la diversité de l'humain, les met surtout dans une position d'accompagner les gens. Et accompagner les gens, c'est pas leur dire c'est ça qu'il faut faire, c'est plutôt être sensible à leurs interrogations, les aider à se poser les bonnes questions et éventuellement les accompagner dans le cadre de la loi, évidemment. Ça pose, là on rentre dans le... Il y a des distorsions, il y a des dissensions, ça pose des problèmes qu'on appelle des problèmes éthiques. Quelle attitude avoir individuellement, quelle attitude avoir en équipe face à telle problématique. Alors, il y a dans l'Isère, il y a des équipes de soins palliatifs, il y a des gens qui réfléchissent au niveau éthique. Là, je voulais juste dire que les soignants, ils peuvent faire appel, en tout cas les soignants du territoire de la CPTS, à une association qui s'appelle Isère Lien Éthique. Donc Isère Lien Éthique, vous pouvez trouver ça sur internet. J'ai cherché une plaquette, mais en fait je me suis aperçu que je n'ai pas retrouvé de plaquette bleue, mais ça s'appelle Isère Lien Éthique, IL, c'est facile. Et c'est un groupe de professionnels qui se proposent d'aider les professionnels de santé à réfléchir à la problématique particulière à laquelle ils sont confrontés dans telle ou telle situation de leur vie, telle personne, qui a telle difficulté, etc. Donc ça s'adresse en particulier aux professionnels de santé qui sont isolés, c'est-à-dire ceux qui sont en hôpital, ils sont plus facilement... en groupe, ils vont plus facilement avoir des instances de réflexion ensemble. Les médecins, les infirmières, les aides-soignants, enfin tous les gens qui peuvent être en contact avec les gens qui sont en difficulté à domicile peuvent faire appel à Isère Lien Éthique. Donc c'est un site internet et il y a un formulaire qui permet de poser sa question et de se faire aider aussi à poser la question, parce que souvent la question, elle est pas, elle est multimodale, comme on va dire. Hein. C'est-à-dire que, comme disait Isabelle tout à l'heure, oui, la personne ne veut pas de soins disproportionnés, d'acharnement thérapeutique, on est tous d'accord. Et à partir de là, pour telle personne, qu'est-ce que ça veut dire? Pour telle situation, qu'est-ce que ça veut dire?
Merci Antoine et merci à tout le monde là. Benoît. Maintenant, à vous la parole, hein, parce que certains ont des questions, des témoignages. Il y a un micro qui va se balader dans la salle.
Oui, donc ça marche là. Oui. Non, ça marche pas.
Si, si, je pense que c'est bon.
Très
prêt. Un, deux.
Très prêt.
Ça marche.
Oui, alors d'abord un témoignage sur l'importance, des directives anticipées et puis du... Voilà, donc sur l'importance des directives anticipées et puis de la personne de confiance. Mes parents sont décédés, enfin ma mère surtout, en 2010, donc ça, elle avait une tumeur au cerveau, et le fait qu'elle n'avait pas fait de directive anticipée, ni désigné de personne de confiance, ça a mené à un conflit donc, avec mes frères et sœurs, conflit profond, quoi, parce que certains qui voulaient lui faire un traitement alors que d'autres ne voulaient pas, quoi. Et voilà, donc ça c'est assez mal fini de ce point de vue-là. Et puis, donc effectivement, s'il y avait eu des directives anticipées, une personne de confiance, il n'y aurait pas ce problème. Quoi. Et puis alors un autre témoignage, donc je voudrais rendre hommage aussi.
Ouais, je vais faire circuler.
Donc j'ai mon épouse qui est décédée en juillet 2023. Je voulais rendre hommage au personnel, enfin de soignants, la collaboration qu'il y a eu entre le médecin, les infirmières, la pharmacienne de Saint-Jean, et puis le personnel de l'hôpital. L'hôpital, quand on sait dans les conditions où il travaille, c'était vraiment admirable, quoi. Voilà, donc, et puis donc l'unité de soins palliatifs aussi, puisque les derniers temps, donc, elle était à la maison. Alors, je n'ai jamais vu le service de soins palliatifs, mais ils se sont occupés de tout en termes de logistique, tout ça. Et donc, on sentait qu'ils étaient là aussi en collaboration avec le médecin traitant et puis les personnels des autres personnels. Voilà.
Elle est restée à domicile jusqu'au bout ?
Oui, oui, oui. À la fin, à partir du moment où elle n'avait plus de traitement, donc elle était à la maison. Puis bon, les derniers temps, ben, il n'y a pas eu besoin de la sédater. En fait, elle était dans le coma, quoi. Elle avait des traitements antidouleurs, quoi. Mais après, les derniers jours, elle était complètement dans le coma.
Dans l'article qui a été présenté, l'article du Figaro, le titre c'est, je ne sais pas si vous pouvez le repasser.
C'est tout le Dauphiné, je pense. Oui, c'est le Dauphiné libéré.
C'est le Dauphiné, non mais...
Mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Celui-ci ?
Non. C'est celui qui est associé, voilà, celui-ci. C'est Dauphiné. Celui-ci, je ne le voyais pas. C'est êtes-vous favorable à l'égalisation du suicide assisté et de l'euthanasie ? C'est-à-dire qu'on différencie le suicide assisté et l'euthanasie. Et moi, je ne vois pas vraiment de différence, sauf à faire peur avec le mot euthanasie à beaucoup de personnes. Et donc j'aimerais qu'on m'explique cette différenciation qu'on essaye de faire entre les deux. C'est très important.
Alors comment fait bien votre travail, c'est expliqué dans la page. je vais essayer de vous la mettre. Je vais essayer, hein.
Je peux répondre à la question.
Voilà. Si vous voyez.
La réponse simple, c'est que l'euthanasie, ça veut dire qu'on donne la mort à quelqu'un qui n'est plus conscient. Alors que le suicide assisté, c'est quelqu'un qui, en toute conscience, se donne la mort. Alors, la question éthique que cela pose, c'est qu'une personne peut demander, dire, moi je souhaite, si je ne suis plus conscient, je souhaite mourir, mais c'est quelque chose qui est dit du temps de conscience. Or, il y a quand même pas mal d'exemples de gens qui se réveillent et qui disent, non, finalement, j'ai changé d'avis. Si vous pratiquez l'euthanasie, vous êtes en train de tuer quelqu'un dont vous n'êtes pas sûr qu'au moment où vous faites la piqûre, il soit encore d'accord de ça. C'est ça le problème éthique que cela pose. Et on le voit aux États-Unis, où, en particulier où il y a des lois qui autorisent à ça, qui autorisent au suicide assisté. Et les gens qui demandent la mort, qui disent bah, « donnez-moi ce qu'il faut pour mourir », vous avez à peu près un tiers des personnes qui se donnent la mort et deux tiers qui, au dernier moment, n'y vont pas. Et donc, l'euthanasie, c'est ça la question de fond, c'est-à-dire on est en train de donner la mort à quelqu'un dont on n'est pas sûr, au moment où on lui donne la mort, qu'il était encore d'accord de ça. Et moi, je connais une petite anecdote de l'hôpital d'un monsieur qui a eu un accident. Il est arrivé à l'hôpital dans un état très mauvais. Finalement, il s'est réveillé, il s'est sorti de son état. Il a témoigné après, je n'avais qu'une peur, c'est qu'on ouvre ma veste, il y avait écrit dedans, si je suis dans un état épouvantable, faites-moi mourir. Et il a dit, heureusement, ils n'ont pas trouvé dans ma veste ce qui était écrit. Alors, c'est que des exemples, bien sûr qu'il y a des exemples inverses, mais c'est pour dire la difficulté de donner la mort à quelqu'un qui ne l'exprime pas au moment où la mort est donnée, qui l'avait exprimé avant, et qui peut avoir changé d'avis en cours de route.
Bonsoir. Ça serait une question, mais je ne sais pas si vous sauriez, puisque c'est plus un terme de légalité, quand on désigne donc une personne de confiance. Est-ce que cette personne, elle devient prioritaire par rapport aux ascendants ou descendants éventuels de la personne concernée?
Oui.
Oui, c'est sûr.
Oui. Alors, elle ne va pas décider toute seule.
Pour le micro.
Oui. la personne de confiance, en gros, c'est la personne qui prend la parole à la place du malade qui ne peut plus s'exprimer. S'il y a, par exemple, décision d'arrêter tous les soins, la décision ne va pas être faite que par la personne de confiance. Il va y avoir toute une décision collégiale avec les médecins, avec les soignants, mais la parole de la personne de confiance restera centrale, et comme le disait François, où il n'y avait pas eu de personne de confiance désignée, ça permet d'éviter les conflits entre différents membres de la famille qui ne seront pas d'accord. S'il y en a qui veulent arrêter les soins et d'autres non, ben, c'est la personne de confiance qui a le dernier mot dans ce cas-là.
Merci.
Jean-Pierre.
Peut-être un petit rectificatif. Une chose que j'ai l'impression qu'il y a un peu de confusion, les directives anticipées, ça n'est intéressant que pour les gens inconscients. Parce que toute personne susceptible d'exprimer ses volontés n'a pas besoin de directives anticipées. Elle dit et on doit l'écouter. Après, la personne de confiance, c'est très important dans le texte, il est écrit, je crois, que sa parole prévaut tous les autres membres, y compris les membres directs de la famille. Je mettrai un petit bémol sur le fait que ça évite les conflits. Je ne suis pas persuadé que parce que quelqu'un dit voilà ce qui a été décidé et qu'il y a des directives anticipées, que pour un temps, les conflits de famille ne vont pas exister. C'est, voilà, je pense que c'est une vue optimiste. Les soins palliatifs gèrent beaucoup de situations de conflits de famille.
La personne de confiance se fait porte-parole. La personne de confiance se fait porte-parole, donc on peut supposer quand même qu'elle a discuté auparavant avec la malade. Quoi.
Moi, je voudrais juste demander si quelqu'un peut répondre. Des soins palliatifs, où, quand, comment, dans le département de l'Isère. Combien il y en a? Et ils sont où?
Alors, les soins palliatifs. Il y a une unité au CHU, puis je connais qu'il y en a une aussi à la clinique mutualiste, qui sont des unités de soins palliatifs. Ces unités de soins palliatifs, c'est des unités donc, d'hospitalisation. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément des unités dans lesquelles on va rentrer et rester jusqu'à ce que... Parce que bon, sans suivre, c'est vous qui l'avez dit. Jusqu'à ce que la mort survienne. C'est-à-dire que, je reviens sur ce que je disais, la volonté du patient... Pour sa fin de vie, elle est quand même fondamentale. Donc, il y a quand même des gens qui ont envie qui peuvent assumer ou dont l'entourage peut assumer, qui finissent leur jour à domicile. Et donc, très bien, l'unité de soins palliatifs, elle sert aussi de temps en temps à réorienter, à mettre en place les bons traitements, à redonner, j'allais dire, une visibilité à l'équipe soignante pour savoir comment on va faire sur le temps qui reste. Donc, dans l'Isère, il y a des unités de soins palliatifs, il y en a au moins deux, et puis il y a un certain nombre d'établissements qui ont des lits identifiés de soins palliatifs. C'est-à-dire que dans des services hospitaliers, d'hôpitaux généraux, ou même de soins de suite, comme à Bazir, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il y a des lits identifiés de soins palliatifs, c'est-à-dire que c'est des moyens supplémentaires qui sont donnés à l'établissement pour des malades qui vont être particulièrement lourds et qui sont dans des situations palliatives. Donc, évidemment, il en manque considérablement, puisqu'il y a des départements où je crois qu'il y a quasiment rien, c'est le vide intersidéral. Mais en même temps, on ne va pas partir du principe que tous les gens qui vont mourir dans une unité de soins palliatifs. Donc c'est évident qu'il faut développer tout ce qui va autour du soin palliatif, mais c'est évidemment les lits de soins palliatifs, les équipes mobiles de soins palliatifs, puisque il y a beaucoup de gens qui sont à domicile et puis il y a beaucoup d'équipes qui ont besoin d'être épaulées par des équipes qui sont spécialisées, qui viennent rencontrer le malade, rencontrer les équipes en disant bah, « Tiens, là, telle souffrance, il faut la gérer. On pourrait la gérer comme ci, on pourrait la gérer comme ça, on pourrait améliorer ci, on pourrait améliorer ça. » Donc cette interaction entre l'équipe qui est... l'équipe qui est sur place, médecins, infirmières, aide à domicile, aide soignante, et puis des gens qui sont spécialisés dans la problématique palliative, elle est très importante. Et ça, pour le coup, il faut absolument développer ces équipes-là qui viennent en soutien. Un médecin généraliste, il voit dans sa patientèle, il va avoir deux ou trois patients dans l'année qui vont être en situation de soins palliatifs. Il ne peut pas être performant sur la gestion de toutes ces drogues, etc. Il a besoin de pouvoir se retourner de temps en temps vers des gens spécialisés. Je regarde Jean-Pierre parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble qui vont lui donner un coup de main, répondre aux questions. Ben là, la personne, elle souffre. Est-ce qu'il faut que j'augmente la morphine? Est-ce que c'est le moment de rentrer dans une sédation? Est-ce que...
et aider les équipes sur place et à se poser les bonnes questions et à être à la bonne place et à aider, enfin, accompagner les gens correctement. Et de ce côté-là, c'est, enfin, on parle, je vais ouvrir une deuxième partie du débat, mais on a l'impression qu'on met en concurrence l'aide active à mourir, l'euthanasie et les soins palliatifs. Et il y a beaucoup de gens qui disent, mais en fait, c'est parce qu'on ne développe pas les soins palliatifs qu'il y a une grande souffrance qui pousse les gens à demander à mourir. On peut se poser la question, je pense qu'actuellement, il y a des tas de fins de vie qui ne sont pas prises en charge correctement et qui pourraient l'être.
Soins palliatifs à domicile, en fait. Et ça, ça a très bien fonctionné, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Non, je disais juste que donc, mon épouse, donc, elle était en soins palliatifs à domicile, et ça a très très bien fonctionné avec donc, les, ce que je disais tout à l'heure, hein, les médecins, infirmières, tout ça, avaient le service de soins palliatifs en appui derrière. Et puis toute la logistique, l'immédicalisé et tout pour l'hospitalisation à domicile aussi.
Je vais juste prendre la parole deux secondes. C'est juste pour amener un élément complémentaire dans la discussion. Chaque année, il y a 3000 personnes âgées en France qui se suicident. Et toute la question des militants du suicide assisté, quand je ne suis pas le défenseur ici, hein, c'est pas la question, mais c'est de dire que fait-on de ces 3000 personnes-là. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête à mon avis.
Question peut-être qui va sembler un peu bête. Je vois que ce que je comprends, c'est que les soins palliatifs sont là pour. Moi, ce que j'avais en tête, c'était surtout empêcher le malade de souffrir, essentiellement, et de l'accompagner dans, en douceur sur le terme de son existence. Par contre, ce que j'arrive pas à bien cerner, c'est quand on parle de douleur, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas plus supporter. Par contre, quel est le point de bascule entre je souhaite mourir parce que mon état est incurable, je peux peut-être. La dame qui était dans le reportage tout à l'heure avec Hollande, elle avait encore sa tête, elle était demandeur, c'était pas fait, et personne ne la prenait en charge. C'est quand est-ce que ça pourrait se faire ou se définir au niveau de la loi? Est-ce qu'il y a quelque chose de bien précis à ce sujet? Parce qu'on peut, à la fois, on ne peut pas se suicider, enfin, si je peux me permettre de prendre cette expression-là, parce que j'avais en tête, dans ce cas de figure, c'était le locked-in syndrome, donc les personnes qui sont enfermées dans leur corps et qui sont. Ils souffrent peut-être pas forcément physiquement. C'est peut-être pas une souffrance active de douleur. Par contre, c'est une souffrance psychologique. Ils peuvent pas communiquer, ils sont pas autonomes. Et à un moment, il faut les aider. Je crois qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu des cas de personnes jeunes qui se retrouvent dans ce cas de figure-là et pour lesquelles ça n'a pas été un long fleuve tranquille. L'échéance n'a pas. Ça ne s'est pas bien passé. Est-ce que la loi est précise là-dessus, en termes de qu'est-ce qui est la dignité? L'autonomie, je pense que c'est assez. La souffrance et l'autonomie, je pense que c'est assez défini pour les personnels médicaux et puis les accompagnants. Par contre, la dignité, ça m'a fait quitter à partir dans la dignité. Est-ce que ça, c'est des paramètres qui sont connus, qui sont identifiés, Est-ce qu'il y a des cases sur lesquelles il y a des croix, on peut mettre pour pondérer les choses, pour pouvoir. Pardon, voilà. Je crois que. C'est compliqué.
Non, Guy.
Oui, moi, je ne me suis pas présenté, je ne suis pas du tout soignant, mais j'ai beaucoup travaillé. Auprès de personnes à l'hôpital, l'accompagnement de personnes malades, de façon générale. Et donc, qu'est-ce que je peux dire sur les soins palliatifs de ce que j'ai vécu, sans être, parce que j'allais dans les services de soins palliatifs, qui ne sont pas que le service de soins palliatifs, il y a dans tous les services des actions palliatives, avec, soit avec les équipes mobiles, soit avec la formation. Il y a de plus en plus de personnes qui sont formées, mais ça manque encore beaucoup en France. Il y a beaucoup de soignants qui ne sont pas suffisamment formés, parce que l'accompagnement, ce n'est pas que la douleur, c'est toute la souffrance psychologique, la souffrance existentielle, et la souffrance morale, et souffrance physique, la douleur. Et la plupart, le plus souvent, la douleur physique arrive à être traitée. Bon, par contre, la douleur existentielle de personnes qui disent « je ne veux plus vivre », comme cette dame que l'on entend, c'est beaucoup plus difficile, mais les soins palliatifs, voilà, travaille aussi là-dessus avec les personnes. Mais qu'est-ce qui est sens de la vie pour vous, dans l'état dans lequel vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors la loi aujourd'hui, et même la loi future, a cette difficulté, c'est que c'est des lois fin de vie. Or, cette personne qui témoigne qu'elle est tétraplégique, ben, elle n'est pas en fin de vie. Hein. Et donc, si vous voulez aller en Belgique, c'est aussi une voie fin de vie. Si vous n'êtes pas en fin de vie, vous êtes retoqué. Hein. Et les dernières statistiques sur la Belgique disent qu'il y a 106 Français, les dernières statistiques datent de 2023, il y a 106 Français qui ont bénéficié de l'euthanasie en Belgique. Voilà, pour dire un peu les chiffres.
Le suicide assisté,
c'est pas en Belgique.
Non.
Ça, c'est en Suisse. C'est ça, je connais pas les chiffres. Non. Non. Et,
en Belgique, c'est l'euthanasie, alors.
Non, en Belgique, c'est l'euthanasie. Il y a eu 106, en 2023, 106 Français qui ont eu l'euthanasie en Belgique. Pour vous donner un peu les proportions de ce que ça représente. Le suicide assisté, je ne connais pas. Je ne sais pas combien de... En Suisse, c'est pas... on ne connaît pas les chiffres. On sait que c'est 10 000 euros. Voilà.
Sur la question. Je pense que le problème, c'est qu'il y avait dans l'histoire deux états. Il y avait les gens en vie et les gens morts. Et puis comme la mort a été beaucoup occultée sur le plan sociétal, en partie pour les médecins aussi, il y a un troisième état qui est mourant. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a une espèce de stade intermédiaire dans la mesure où la culture palliative n'existe pas seulement là, elle existe dans la vie de tous les jours. Il n'y a plus la réflexion sur le mourir dans la vie de tous les jours, puisqu'on n'y est pas confronté. Et quand elle arrive d'un seul coup à travers la maladie, elle devient un état nouveau, et on a vu des nouveaux médecins de soins palliatifs et des nouveaux services. C'est-à-dire d'un seul coup est arrivé un nouvel état qui d'habitude était la fin de vie normale et qui maintenant devient compliqué, ne serait-ce que parce qu'on fait des traitements dont quelqu'un avait très bien dit que la médecine concourait à fabriquer des situations de grande vulnérabilité qu'on ne savait plus prendre en charge. Le problème va être bien en amont de la loi qui se passe, je me permets cette petite réflexion, c'est-à-dire que le problème sera en amont dans la mesure où il y a des choses que l'on sait faire, mais ce qu'on doit les faire, ça se pose le problème des traitements tout le long de la maladie. Et du coup, maintenant, une autre réflexion va arriver, est-ce qu'on fait ce traitement? Est-ce qu'il est censé? Et ça va donc nécessiter que le patient soit informé, ce qui n'est pas si souvent le cas, et c'est très difficile de donner une information entendable par celui qui doit l'entendre. Donc ça, c'était la première réflexion. La deuxième réflexion, c'est qu'il y a quelque chose qui me gêne beaucoup dans ce qui va arriver. Nous savons tous, pour avoir exercé ce métier pendant très longtemps, la difficulté de certaines situations qui sont des impasses, comme dirait notre ami Roland, des apories, c'est-à-dire qu'il n'y a que des mauvaises solutions. Et le problème, c'est que on voudrait que ce soit les médecins qui décident qui relève ou ne relève pas d'un suicide assisté. Je pense que les médecins pourront donner la faisabilité. Oui, on est en fin de vie. Oui, le pronostic est probablement très réservé. Pour les pronostics, on est très mauvais, on se trompe tout le temps. Mais au moins, on sait que le pronostic est très réservé, que la situation... Mais pourquoi, à quel moment, est-ce que c'est le médecin qui va décider d'une chose légale? Là, je me retourne vers notre magistrat, et j'aimerais bien avoir son avis. Pourquoi est-ce qu'on va retourner la décision légale à un médecin dont ce n'est pas la profession? Je pense que nous sommes capables de dire c'est effectivement tel état, on est à tel endroit, et qu'ensuite la décision elle devrait être prise certainement quand il y a une collégialité, pas seulement par des collégialités de soignants, mais il faut introduire un autre intervenant, que ce soit l'intervenant du secteur légal, du philosophe, etc. C'est pas si simple de faire une loi sur la famille.
Moi, ça m'interroge, en fait, justement, à partir de quel moment on... Je rebondis sur ce que vous disiez, hein. À partir de quel moment on estime que c'est la fin de vie? Moi, j'ai mon père qui est décédé en 2014. Les médecins pensaient qu'il allait vivre encore. Et en définitive, il est décédé très rapidement. Donc... il n'a pas été accompagné, je pense pas. On ne sait pas en fait. Mais on ne sait pas exactement comment ça s'est déroulé. Mais en attendant, qu'est-ce qui définit justement, qu'est-ce qui permet de dire qu'une personne est en fin de vie ou pas? Quels sont les critères en fait? Qu'est-ce qui va permettre de justement basculer dans le cadre de la loi Leonetti? J'arrive pas à comprendre en fait. Donc ça c'est une première question. Et la deuxième, vous disiez au début de la soirée qu'il faut préciser dans les directives anticipées qu'on peut formuler, préciser en fait les différents cas de figure. Qu'est-ce qu'il y a comme cas de figure qu'on peut envisager justement? L'intubation, etc. Est-ce qu'on peut être un peu, est-ce qu'on peut essayer d'être un peu plus précis ce soir? Voilà.
Je vais essayer de donner des éléments de réponse, sûrement pas une réponse. La première question, c'est qu'est-ce que c'est à partir de quand on est en fin de vie? Donc, nous, en médecine, il y a un moment où on fait des traitements qu'on va appeler curatifs, c'est-à-dire on dit ben, ils vont être efficaces sur la maladie, et puis il y a un moment où on sait que les traitements ne sont plus efficaces sur la maladie, que ce qui va être privilégié, c'est l'accompagnement, la non-souffrance, la diminution de symptômes qui sont très gênants. Alors c'est compliqué parce que il peut y avoir des antibiotiques, il peut y avoir même des chimiothérapies qui vont diminuer une souffrance alors qu'on sait qu'ils ne vont pas être curatifs. Donc on glisse progressivement d'une stratégie curative à une stratégie plus palliative où finalement on sait que c'est pas la maladie qu'on va guérir mais on va accompagner le patient dans des conditions les meilleures vers la fin inéluctable. C'est une question qui se pose de plus en plus parce que maintenant il y a des traitements extraordinaires qui permettent de vivre avec certains cancers desquels on mourrait il y a encore 10 ans, 2-3 ans, et maintenant, finalement, avec une immunothérapie, avec, etc., et ben, les gens, ils ont leur cancer, parfois métastasé, puis ils vivent plusieurs années de bonne qualité, et puis un jour, ça s'arrête. Donc, c'est pas la... J'allais dire, jusque, comme disait Isabelle tout à l'heure, hein, tant qu'on n'est pas mort, on est vivant, et donc, il y a des choses à vivre. Et après, ce que dit le scanner, ce que disent les médecins, ce que dit tout ça, c'est bien, c'est quelque chose, mais ça ne fait pas tout. Hein, donc on peut vivre pendant longtemps avec une maladie dont on sait que c'est celle-là qui va nous emporter. Donc ça, c'est la première chose. Donc à quel moment on décide, à quel moment on dit c'est une fin de vie, c'est pas si simple que ça. Et enfin, c'est pas si simple que ça. Et puis, est-ce que ça a vraiment une importance? Après, il y a des signes qui disent, bon ben là, le malade, il s'aggrave considérablement sur le plan cardiaque, sur le plan... Et on sent bien qu'on va parler de jours ou au moins de semaines. D'accord. Donc là, on passe un cap et on s'aperçoit qu'effectivement, la partie est définitivement perdue. Mais là encore, il y a encore des choses à vivre, il y a encore des belles relations à avoir, il y a encore des moments de plaisir, des moments de joie, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais enfin, de toute façon, je ne pouvais pas y répondre. mais il y aura peut-être d'autres gens qui pourront dire quelque chose. Et puis la deuxième question, c'est effectivement, il faut essayer d'être précis. C'est-à-dire, et les médecins utilisent, enfin les médecins, les soignants utilisent une fiche de qui s'appelle le SAMU, soins palliatifs, ou quand on a un patient à domicile qui a beaucoup de. Enfin, qui a un risque important d'être réhospitalisé en situation critique dans une maladie mortelle à court terme. On essaye de discuter avec lui en disant, mais effectivement, est-ce que vous êtes prêt à aller en réanimation? Ah ben, en réanimation, ça veut dire quoi? Eh ben, est-ce que l'intubation, la nutrition artificielle, la sédation de la douleur, jusqu'où on va? Mais il faut se rendre compte que ce n'est pas forcément très simple pour le patient de s'imaginer tout ça. Moi, j'ai accompagné beaucoup de patients qui sont rentrés chez eux parce que il n'y avait plus de traitement actif à faire. Il fallait qu'ils rentrent chez eux et on essayait d'organiser ça le mieux possible. Mais, comme l'a très bien dit le monsieur tout à l'heure, le déni aussi, ça fait aussi partie de notre mode de fonctionnement. Et là, c'est le rôle du soignant de dire... d'arriver un peu avec ses petits souliers, puis de dire, et si ça s'aggrave, on fait quoi? Ah ben là, je vais bien, docteur. Oui, d'accord, vous allez bien, très bien. Mais si ça s'aggrave, comment on fait? Et il faut commencer à poser des questions de plus en plus précises, de plus en plus gênantes, mais ça peut aussi mettre beaucoup de gens mal à l'aise. Donc c'est un travail, j'allais dire, qui se fait au cas par cas. Et c'est pour ça qu'on va beaucoup discuter sur les limites de la loi, mais parce qu'une loi, forcément, elle va englober tout le monde. Et alors, quand on va commencer à dire, ben oui, on peut proposer un suicide assisté à cette petite dame qui le demande, et ça nous paraît tous légitime, ben oui, et à quel moment on s'arrête de proposer un suicide à des gens qui, finalement, en ont marre de vivre la vie qu'ils sont en train de mener? Donc, je pose plus de questions que je n'en résous, mais c'est malheureusement la figure du. Enfin, c'est le style imposé par cette question-là. Donc, je vais pas garder la parole, mais si on veut savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est le plus humain, qu'est-ce qui est le plus digne, souvent c'est quand même le fait de pouvoir y réfléchir à plusieurs, et surtout si le malade lui-même l'intéressait, il a pu dire ce qu'il voulait, ou que les gens qui sont proches de lui, on dise, ben voilà, pour lui, ça serait ça qui serait bien. Et puis si on est plusieurs humains autour de ce cas humain, on sera peut-être un peu moins loin de la vérité que si c'est une seule personne qui décide.
Il y a une question. Aujourd'hui, dans le cas de figure de 30% des personnes qui ont formulé leur volonté de partir, ceux-là, est-ce qu'ils sont bien accompagnés ou est-ce que les 60%, le poids de ceux qui peuvent changer d'avis fait que on crée du mal-être pour ceux qui sont déjà bien intériorisés, qui sont déjà bien préparés,
et tout ça, tous ceux qui sont bien préparés aujourd'hui, est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils partent dans de bonnes conditions, voilà, si je peux dire ça comme ça, de la connaissance que vous en avez aujourd'hui?
Et actuellement, le suicide médicalement assisté, l'aide à mourir, elle n'est pas autorisée en France.
Oui, justement. Oui. Donc la loi, il faudrait que, déjà qu'on puisse adresser cette population-là.
Juste, c'est un témoignage de Claire Fourcade, qui est la présidente de l'association de soins palliatifs, la SFAP, Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Cette femme, elle est donc en soins palliatifs, ça fait 20 ans qu'elle est en soins palliatifs, et on lui a posé la question, combien de cas avez-vous rencontré de demandes persistantes de mourir? Et elle a dit, de toute ma carrière, je n'ai eu que deux cas de demandes persistantes de gens en soins palliatifs qui est faites-moi mourir. Voilà, sur 20 ans d'expérience dans son hôpital. Donc, ce qu'on constate en soins palliatifs, c'est que les gens qui sont bien accompagnés ne demandent plus à mourir parce que, alors souvent ce qui est demandé c'est de la sédation, s'ils sont trop souffrants, ils demandent de la sédation. Ce qui se pratique à l'hôpital de Grenoble, au CHU de Grenoble, c'est beaucoup de sédation, non pas continue, mais partielle. C'est-à-dire qu'on soulage la douleur un certain temps, et puis la personne dit ben, « laissez-moi réveiller le matin, parce que le matin, ça va mieux, puis dès que ça va moins bien, vous me réendormez ». Ça permet d'avoir encore des instants de conscience, des instants de partage avec les personnes qui passent. Donc à Grenoble, il y a très peu de sédation continue jusqu'à la fin. Ça se pratique aussi, s'il y a une demande et que la personne souffre de trop, ben, c'est une sédation continue jusqu'à la mort. Mais l'expérience, c'est que les gens qui sont bien accompagnés, généralement, ne sont plus en demande de mort parce que les souffrances existentielles arrivent à être traitées en partie quand les gens se rendent compte que, par exemple, il y a des exemples de gens qui se rendent compte que pour leurs proches, eh ben, c'est important qu'il y ait encore un dialogue. Récemment, on citait le cas d'un monsieur qui voulait absolument mourir, et puis sa femme qui était encore vivante, elle n'a pas envie qu'il meure. Et donc les soignants ont dit, il faut absolument que vous discutiez avec votre femme. Et ce monsieur a pu dire après, eh ben, on a passé une nuit entière à discuter, on ne l'avait jamais fait avant, j'ai plus envie de mourir tout de suite, la mort arrivera, et la mort est arrivée naturellement. Il a retrouvé au travers du dialogue avec sa femme, parce qu'il n'avait jamais parlé de la mort comme ça, la femme n'osait pas lui dire « tu veux mourir mais moi je veux pas », les soignants les ont aidés à discuter de ça. Et souvent les problèmes se résolvent en grande partie comme ça, alors ceci dit il restera toujours des cas, les cas les plus difficiles c'est le cas de cette dame, de gens qui ne sont pas en fin de vie, moi j'en ai rencontré des gens qui sont encore jeunes mais qui ont des souffrances, et qui disent ben, « si on m'atténue les souffrances, eh ben, j'ai plus une vie où je ne peux plus faire grand-chose parce que je suis alité, je suis… » Voilà. Et donc ça pose des vrais problèmes. Sous les cas que vous avez soulevés, des gens qui sont complètement alités, qui n'ont que le contact difficile, voilà, et qui veulent mourir, voilà, je n'ai pas de réponse à ça.
Juste une chose, on a parlé des soins palliatifs depuis tout à l'heure, et il y a un petit problème avec l'idée des soins palliatifs, c'est pas la fin de vie, hein, les soins palliatifs. C'est l'accompagnement au cours de la maladie. C'est-à-dire que nous, on a suivi en soins palliatifs des gens pendant des années. Dans certains grands hôpitaux parisiens spécialisés dans le cancer, les soins palliatifs font partie de l'équipe qui font l'annonce du cancer. C'est-à-dire dès le début. Quand vous dites à quelqu'un « vous avez un cancer », la première chose à laquelle il pense, c'est « je vais crever ». Donc c'est foutu. Cette idée de la mort, elle est tout de suite présente, il faut tout de suite lui permettre de l'exprimer. Parce que sinon, on commence à rentrer dans tous ces non-dits qui vont accompagner tout le suivi des maladies au long cours, des maladies graves. Et le fait d'avoir dès le début cette ouverture, et donc de mettre très tôt le fait de l'accompagnement, parce qu'en soins palliatifs, la part médicale stricte, Antoine, elle n'est pas la plus importante. Celle-là, on sait la gérer techniquement. mais c'est tout le reste, c'est-à-dire le côté moral, spirituel, familial, enfin tout ce qui fait la vie de quelqu'un. Donc c'est, les équipes de soins palliatifs sont des équipes multidisciplinaires dans lesquelles le médecin n'est qu'une des voies. La deuxième chose que je me permets de préciser, c'est ce qui concerne la sédation continue jusqu'à la fin. Pourquoi est-ce qu'on a mis dans la loi que la sédation continue devait se faire quand les gens étaient dans les derniers moments de leur vie? C'est parce qu'au bout d'un certain temps, une sédation continue, ça n'est pas facile à mettre en route, et ça n'est pas facile à gérer, surtout si ça dure. Au bout d'un certain temps, il y a des phénomènes d'échappement. Les médicaments, il faut augmenter les doses, ou il faut les associer à d'autres médicaments, et ils vont créer en eux-mêmes un inconfort possible. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de prévoir des sédations totales continues jusqu'au décès qui durent au-delà d'une paire de semaines. Parce qu'on va rencontrer des difficultés à ce moment-là. Donc il faut comprendre pourquoi dans la loi, ça n'a pas été prévu plus tôt. C'est simplement qu'on ne sait pas le faire plus tôt. Par contre, les sédations intermittentes, ou les sédations, comme le disait Guy, c'est-à-dire des gens qu'on sédate uniquement la nuit, ou, etc., c'est autre chose. Et ça permet de tenir le coup.
Il y a un cas de figure dont on n'a pas parlé. Les personnes qui se suicident, qui veulent se suicider et qui se ratent et qui ressortent de là dans un état de légumes, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on décide pour elles? Je connais le cas d'une personne dont le mari a voulu se suicider, il s'est raté. Cette personne a son mari sur les bras depuis 10 ans. Il est ingérable. Il fait des tas de bêtises. Il est vraiment ingérable et c'est une galère pour elle. On fait quoi là? Et parce que lui, il avait vraiment envie de mourir, mais il s'est raté. Et je pense qu'il y a beaucoup de cas, beaucoup de gens dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on décide pour eux? Parce qu'au départ, ils avaient décidé de mourir. Ils sont ratés.
Ça fait 9 ans que vous avez évoqué aussi le problème du suicide des personnes âgées. Moi, je n'ai pas de réponse à votre question, je pense que personne n'en a une. C'est-à-dire qu'il y a des tas de situations qui échappent à tout. Cette personne, elle voulait mourir à un moment, et puis finalement, comme vous dites, elle s'est ratée. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle veut? Moi, je connais très bien quelqu'un qui s'est jeté du 5e étage quand il avait 20 ans et pour mourir, et puis qui finalement on court aux Jeux Olympiques en escrime sur fauteuil. Je ne sais pas que dire. je pense que de temps en temps, il y a des envies de mourir, et puis elles ne sont pas éternelles, et puis voilà. Ça pose une question bien plus large, et vous l'aviez évoqué tout à l'heure en disant il y a 3000 personnes âgées qui se suicident par an. Oui, et il y a aussi beaucoup de jeunes, etc. Mais ça, c'est une question de mal-être. Est-ce que c'est à la loi, est-ce que c'est à la médecine de répondre à ça? Est-ce que c'est un problème sanitaire? C'est un problème de santé publique. Ça montre qu'il y a un mal-être terrible, mais finalement, est-ce que les soignants, ils ont quelque chose à voir dans cette histoire? En tout cas, les médecins, c'est probablement qu'ils n'arrivent pas à soigner correctement leur dépression. Ces gens-là, ils sont probablement isolés, ils sont probablement... Jean-Pierre, il avait commencé à évoquer cette histoire tout à l'heure, c'est-à-dire que la vie, la mort, ça dépasse très largement la compétence des soignants. Voilà. Donc le jour où on me demandera moi d'aider à mourir quelqu'un,
quelqu'un qui dit bah, il faudrait m'administrer telle drogue pour mourir, je ne sais pas ce que je dirais. Je ne sais pas si je dirais, mais attendez, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement d'abord, voilà. Et deuxièmement, est-ce que c'est bien à moi de faire ça?
Le sourire de dette. C'est une dame canadienne, c'est au Canada que ça se passait, qui a demandé donc à mourir et qui a eu, je crois que c'est plutôt une euthanasie parce que je crois que c'est le médecin qui lui a fait finalement la piqûre, c'est lui qui lui a injecté, il y avait plusieurs produits injectés, donc c'était plutôt une euthanasie. Et franchement, si vous pouvez le reprendre, j'ai trouvé, c'était une dame qui avait un cancer, qui avait des grosses douleurs, ça faisait un moment quoi, qu'elle demandait ça, mais elle est morte le jour où elle l'a vraiment décidé. Mais il y avait tout un collège de personnes qui sont occupées d'elle. Il n'y avait pas que des médecins, il y avait un médecin, un psychologue, il y avait toute une équipe qui a accepté de dire oui, ben, elle a le profil pour qu'on lui fasse l'euthanasie. Mais c'est un médecin qu'elle connaissait depuis longtemps qui lui a administré les produits. Et lui, il a dit, mais moi j'estime que je dois accompagner mes malades, enfin, mes patients, jusqu'au bout, y compris jusqu'à la mort. Et elle a fait une fête avec toute sa famille, mais quand on la voyait, on disait, mais comment se fait-il qu'elle demande à mourir, quoi, parce qu'on l'a trouvée toute palpante, toute... Mais elle expliquait là qu'elle faisait un effort, elle avait demandé à être filmée pour expliquer les choses, pour que ça serve à d'autres. Elle a fait tout un truc, elle a mis toute sa famille, un bon repas et tout. Et à un moment donné, elle a dit, bon ben là j'en peux plus, il faut que j'aille prendre un médicament pour supporter. Mais on se demandait comment elle pouvait avoir demandé la mort alors qu'elle paraissait tellement vivante, quoi. Mais vraiment, si vous pouvez revoir le thème, ça fait déjà bien, hein.
Un mois, ça ne veut pas dire que le débat est fermé, hein. De toute façon, des questions sans réponse, il y en aura toujours, et ça fait partie de la vie, quoi. On ne peut pas tout maîtriser, on ne maîtrise pas, comme disaient les médecins, sont très mauvais pronostiqueurs de la fin de la vie, et il y aura toujours des cas qui ne rentrent pas dans une case, de toute manière, et quelle que soit la loi, il y aura toujours besoin de réfléchir, de se rencontrer, de discuter et de prendre la décision la moins mauvaise possible avec la personne, en respectant chacun. Puis, ben, s'il y a personne qui n'a autre chose à rajouter, on va aller voir un coup. Hein. Ah si, Bernard, tu veux pas voir tout de suite?
Oui, parce que bon, compte tenu des interventions, je ne sais pas que je veux bon. C'est pas du tout mon rôle en plus. Non, mais bon, la question qui était posée, c'est une nouvelle loi est-elle nécessaire, hein, et c'était ça le but de notre échange. Hein. Et à l'issue de cet échange, on sent bien quand même qu'il y a une nécessité. Enfin, moi, je le ressens comme ça, hein, c'est pour ça que je le dis tel que je ressens, qu'il y a une nécessité de faire évoluer la loi Leonetti, qui semble effectivement pas approprié pour l'ensemble des cas. Mais est-ce qu'il y a une solution de loi pour l'ensemble des cas? Je ne crois pas du tout.
Mais bon, mais il n'empêche que la loi de Newton ne répond pas à suffisamment de la suffisamment, comment dire, de ce que les gens souhaitent en majorité. Et dans le même temps, j'ai écouté ce que dit le médecin, et je sens bien qu'effectivement, ce n'est pas à eux de répondre, j'ai bien compris, et je comprends parfaitement qu'ils ne peuvent pas répondre à la place effectivement, des personnes et décider pour elles. Donc, malgré tout, si la loi évolue, il faudra qu'effectivement, ils se soumettent à la loi telle qu'elle évoluera, et j'espère personnellement qu'elle va évoluer, et puis qu'enfin, effectivement, le débat ira jusqu'au bout. On verra bien ce qu'il en sortira. Hein. Et moi, ce que je veux dire, c'est que, bon, je vais me répéter, hein, c'est qu'effectivement, cette loi, elle est insuffisante aujourd'hui, dans le cadre de la société telle qu'on la vit aujourd'hui.
Moi, j'ai envie de faire une conclusion, mais qui est personnelle aussi, comme la vôtre. Moi, ce que je crains d'une évolution de la loi, c'est que ça oblige à chacun à se poser la question, est-ce qu'il est temps que je meure, hein? On pense aux personnes âgées qui disent, voilà, maintenant j'ai plus de raison de vivre, je suis inutile, je coûte cher à la société, il est temps que je m'en aille. Aujourd'hui, on n'a pas la question à se poser parce que la loi ne permet pas ça. Et obliger chacun à se poser la question, faut-il que je m'en aille, je ne suis pas sûr que ce soit une vraie liberté, surtout pour des personnes qui sont en état de fragilité. Quand les personnes sont assez fortes pour décider, moi je veux mourir, ce qui est le cas de cette dame dans le reportage dont vous avez parlé, c'est une minorité. Et j'aurais trop peur qu'on aille vers... en disant finalement ça coûte moins cher à la société de laisser partir les gens que des soins palliatifs qui coûtent cher parce que c'est du temps et voilà. Donc moi je crains une évolution de la loi et je trouve que la loi Leonetti permet de répondre à bien des situations et qu'elle est enviée dans bien des pays de nous l'envie cette loi Leonetti. Donc voilà, ma conclusion qui est personnelle, c'est que moi je pense que la loi il faut qu'elle reste telle qu'elle est.
Du coup, ça me donne envie de rebondir par rapport à ce que vous venez de dire. S'il y avait vraiment un changement de loi qui pourrait ouvrir à cette question, est-ce qu'il est temps ? Cette question, elle ne serait pas destinée à, je ne sais pas, à quelqu'un de 99 ans, 90 ans, 80 ans ? Non, ça serait une loi. Donc, cette loi, on en aurait tous conscience, peut-être même depuis l'adolescence, peut-être même à la préadolescence au collège, je ne sais pas, mais cette question, elle ne se serait pas uniquement dirigée vers les personnes en état de fragilité, mais à tout à chacun. On aurait tous, à un moment, conscience qu'on pourrait se poser légitimement cette question. Et je pense que justement, ça serait bien mieux de pouvoir la diriger à tous.
Moi, ce que je retiendrai de ce qu'on vient d'entendre ce soir, c'est que justement, il va être très difficile de faire une loi vu tous les éléments qu'il faut prendre en compte, toutes les possibilités ou les refus qui s'offrent à nous. Toute la difficulté, c'est d'arriver à mettre tout ça dans une loi qui permette de répondre mieux que celle qui existe au problème, mais si complexe finalement, des situations de chacun, parce que chacun a ses propres choix. Je pense que les discussions à l'Assemblée nationale risquent d'être complexes.
Oui, c'est juridique qui se passe.
Oui, puisque on est sur le problème de la loi Léonetti-Clé, c'est que elle est mal connue et elle est mal appliquée, parce qu'on n'a pas les moyens de l'appliquer. Donc en fait, c'est un peu là aussi que vient le doute d'un certain nombre de soignants sur encore une loi. Ben oui, encore une loi, pourquoi pas, mais celle d'avant, qui était pas mal finalement, elle est mal connue et mal appliquée. Et après, tout le monde est conscient, et vous venez de le dire, qu'il n'y aura jamais une loi qui va résoudre tous les problèmes. Et heureusement, comme dit Isabelle, il faudra quand même continuer à réfléchir. Parce que si on ouvre très, très, très grand les vannes et qu'on dit ben, quand les gens ont décidé qu'ils veulent mourir, ben, la société les accompagne dans cette mort, qu'est-ce qu'on fait de tous les adolescents déprimés et... Donc, je suis extrémiste, hein, mais la question de la loi, elle aura toujours ses limites. Hein, et je pense qu'il y a des tas de gens de bonne volonté. Alors, il y a des sectaires dans les deux côtés, mais il y a des tas de gens de bonne volonté qui réfléchissent et qui seront obligés de se reposer toujours des questions.
Oui, mais même dans les pays où ça existe. C'est pas parce que juste on dit ah ben je veux mourir et paf c'est fait. Parce qu'il y a tout, donc dans le reportage que j'ai vu, il y a tout un protocole. C'est pas parce qu'on dit oh ben tiens j'arrive à mes 90 ans, je vais partir. D'abord je suis pas sûre qu'il y a 90 ans. mais même, il y a des conditions bien strictes.
Oui, oui, enfin, on ouvre une porte, alors je vais être provocateur, je ne voudrais pas relancer le débat, mais ça veut dire que si le suicide médicalement assisté, ça veut dire qu'on donne à quelqu'un la possibilité de tuer quelqu'un d'autre.
Non, mais dans le médicalement assisté, on a dit d'assister, c'est du médicament.
Non, mais dans
l'euthanasie,
mais
dans le médicalement assisté, c'est la personne qui se suicide.
Mais si elle se suicide, alors elle n'a pas besoin d'être médicalement assistée.
Mais si, parce qu'on lui donne la pilule pour se suicider.
Ah.
Parce qu'autrement, on soit même à part le médicament, on va se
faire. Ah,
je disais ça tout bas, mais donner quelque chose à autrui pour que autrui meure, c'est un crime.
Ben,
en France. Hein.
Ben, qu'on en embrasse,
oui. Donc ça joue le. Mais il n'y en a pas beaucoup d'affaires comme ça. Mais ça peut arriver.
En pleine guerre, ça gêne personne.
Je vous entends dire si on prolonge, si on poursuit cette loi Léonetti et qu'on ouvre la porte à d'autres choses, mais si on ne le fait pas, à l'inverse, on ferme la porte à cette possibilité du suicide assisté malgré tout. Donc il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. C'est quand même assez compliqué. Et moi aujourd'hui, je suis clairement pour le suicide assisté. Si demain je me trouve dans une situation où je ne peux pas me procurer toute seule le médicament qui me permet de mourir, j'espère qu'il y aura quelqu'un qui voudra bien aller chercher ce médicament pour moi. Et je veux avoir cette possibilité légalement. Et ce n'est pas parce que je pense ça aujourd'hui que le moment venu, je prendrai cette décision. Tout ça, je le sais pertinemment. Mais je veux pouvoir le faire et je veux pouvoir le demander autour de moi. Et je veux que les personnes qui m'entendent ce jour-là ne soient pas poursuivies en justice. Je veux avoir cette possibilité-là. Et quand vous dites « on ouvre la porte à quelque chose et vous craignez d'autres choses par derrière », mais si on ne le fait pas, vous me fermez la porte à moi, en fait. Donc c'est quand même assez compliqué. Et vous me fermez une possibilité. Je ne dis pas que c'est forcément comme ça que ça se passera. C'est une possibilité que je veux avoir. On arrive sur cette notion de liberté. Et cette notion de liberté, elle est effectivement très importante. De surcroît, je rends une anecdote personnelle. Là, quand mon père est arrivé justement en fin de vie, même si les médecins ne mettaient pas le terme de fin de vie, hein, Moi, je suis justement pour la, comment dire, la fin de vie assistée, accompagnée, etc. Mon père était exactement avait exactement l'opinion inverse. On avait eu de multiples débats avant d'être malade, hein, quand j'étais jeune, on avait eu multiples débats là-dessus. Et quand on est arrivé justement dans ce moment-là, lui, il était du coup souffrant et il souhaitait en fait que sa vie se termine. Et à l'inverse, moi, avec tout ce que je viens de dire ce soir, j'étais au contraire très très réservée. Je me disais, bah, en fait, non, c'est son choix et je ne vais surtout pas l'influencer et surtout pas répéter tout ce que j'ai pu dire de nombreuses fois. Cette fois, je me tais, je sais même plus ce qu'il faut faire, quoi. Donc, même si ce soir, je suis pour la prolongation de la loi Leonetti, c'est pas pour autant que le moment venu, j'en ferai l'usage. Mais je veux avoir la liberté de choisir. Je pense, enfin, moi, ma conclusion, ça serait celle-ci, c'est laissez-nous la liberté de choisir.
Alors, je vais conclure une deuxième fois. Hein. Laissez-nous la liberté. Oui, je pense que c'est important pour chacun de pouvoir choisir sa vie et sa mort. Mais effectivement, si on demande à quelqu'un de donner la mort, on reporte la responsabilité sur quelqu'un d'autre.
Ben
c'est là où il y a un petit peu le problème.
Non, pas vraiment.
J'ai pas conclu alors. C'est parti.
D'ailleurs, on a pris l'exemple de quelqu'un qui voulait se donner la mort et qui s'est raté. Oui. Voir toutes les conséquences qu'il peut y avoir dans ce cas-là. Bon, à partir du moment où quelqu'un qui a le savoir, qui est capable d'aider quelqu'un qui a décidé d'en finir et lui donner la possibilité de le faire et de le faire bien et dignement, moi je trouve ça très important et ça c'est ce qu'il faudrait garder en mémoire pour du moins les personnels soignants. C'est vrai qu'il faut que ça rentre dans un cadre, on ne peut pas donner un produit à quelqu'un parce qu'il a un coup de blues ou un truc comme ça. Il faut que le cadre soit bien défini. Il faut laisser la liberté à la personne de choisir et de l'accompagner pour que ce soit bien fait. Je pense que c'est ça. Moi, on arrêterait là.
Juste, en tant que médecin, je suis tout à fait d'accord avec tout ça, mais ce n'est pas forcément le médecin qui va accompagner la personne. C'est là où il y a c'est le suicide médicalement assisté, c'est là où ça coince pour moi. C'est suicide assisté.
C'est le médicament assisté, c'est ça qui gêne.
Oui, c'est la société qui va aider la personne à mourir, mais ce n'est pas forcément son médecin. Voilà.
Non, mais d'accord, si ça rentre dans le cadre de la loi et que le médecin, le soignant est là pour sauver et puis aussi pas sauver et qui va aider. Finalement, beaucoup de connaissances.
Je comprends les réticences philosophiques des médecins, spirituelles, ce qu'on veut. Je les comprends parfaitement, mais il n'empêche qu'il faudra que la loi évolue avec ou sans eux. Et ce n'est pas eux qui auront la décision, effectivement, dans ce cas-là. Donc il faut qu'elle évolue afin de respecter la liberté des individus. On parle beaucoup de liberté, mais c'est vraiment le moment extrême où la liberté peut s'exprimer. C'est une liberté d'arrêter sa vie. Je l'exprime sûrement mal, hein. je suis pas un philosophe.
Excuse-moi Isabelle, j'ai soif. Mais quand même. François, ça y est, tout fort, bon. Alors, je voudrais dire que les médecins ne sont pas
c'est pas les médecins qui font, on n'a pas prétention, on essaye de, d'éclairer ce qui se fera. Que la loi se fasse, c'est évident qu'elle va se faire, je crois qu'on ne faut pas s'arc-bouter n'importe comment. Je crois surtout que cette opposition, elle ne doit pas se faire de façon frontale, mais qu'on doit, on doit essayer, même nous, soins palliatifs, de faire en sorte que si cette loi se fait, les garde-fous et les conditions pour son application soient très strictes et que les gens qui s'occupent d'habitude d'accompagner les gens participent à la décision. La deuxième chose, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis encore une fois, je ne vois pas pourquoi cette décision est choix au médecin. Le choix de décider qu'on veut mourir, c'est un choix personnel, respectable, mais ce n'est pas un choix qui est dépendant du médecin, lui peut dire la faisabilité à certains moments. Je crois qu'il faut... Et les médecins ont fait 10 ans d'études et 30 ou 40 ans de métier en espérant soigner, accompagner, et on a accompagné beaucoup de gens. Et comme je disais tout à l'heure, tous ceux qu'on a sauvés, on finit par mourir. Mais d'une manière générale, on n'est quand même pas là pour les achever. Quoi. Donc il y a quand même un moment donné où on va se trouver très gêné quand on aura accompagné longtemps quelqu'un. Claire Fourcade a très bien dit à la stade. On va avoir accompagné longtemps quelqu'un, et puis alors on serait censé lui donner la pilule ou la seringue qu'il fera mourir, et quid du suivant ? Qu'est-ce que je vais faire avec le suivant ? Alors, dites-vous bien que c'est pas si simple. Ouais. La liberté de chacun, elle s'arrête là où commençait les autres, vous savez, et que c'est nous qui n'avons pas envie de porter. Parce que c'est bien la liberté, j'ai la liberté de... Je suis d'accord avec votre réflexion, elle était très intéressante. Mais n'oubliez pas que vous assignez quelqu'un. À partir du moment où votre liberté assigne quelqu'un d'autre, que faites-vous de sa liberté à lui ?
Bon, j'hésite à prendre encore la parole parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Non, moi je pense que le problème qu'il y a actuellement, parce que des euthanasies ou des suicides assistés, je suppose qu'il y en a clandestinement. Le problème, c'est qu'actuellement, la loi ne permet pas d'avoir une réflexion collégiale. Bon, c'est clair que la loi ne peut pas envisager tous les cas individuels. Mais si, déjà, elle permet, elle donne un cadre pour permettre d'étudier les cas de façon collégiale, parce qu'actuellement, ça peut se faire que clandestinement, quoi. Donc, ça permet pas de débat entre, juste, les médecins, les soignants en général, la famille et tout ça. Donc si la loi déjà permettait d'avoir un cadre de réflexion, je pense que ça serait déjà pas mal.
Allez, on conclut. On arrête. Concluez. De toute façon, on a dit qu'on allait... Non, j'ai conclu deux fois, je n'ai pas conclu le troisième. On peut regarder ça. Parce qu'elle peut voir...